écoutez Ainsi soit-elle.
Quand j'étais petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Deux hommes déshabillés, de drogue commandée, d'amour et de tuer.
Tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3. Vous êtes avec Claire et Hélène et c'est l'émission Ainsi soit-elle qui commence avec toujours l'excellente musique d'Evelyne qui est à la mise en onde. On en profite pour saluer toujours nos camarades qui sont présentement à l'agité pour les mardis de l'anarchie qui commenceront à 8h tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on fait un retour sur on commence avec des petites actualités. Ensuite, on fait un retour sur le colloque qu'il y a eu à Montréal où Claire et moi étions, qui soulignait le 20e anniversaire, triste anniversaire de la tuerie de Polytechnique. Donc, un colloque qui s'appelait, en fait, « Se souvenir, Claire, vas-y, tout de suite, embarque! »
La tuerie de l'école Polytechnique 20 ans plus tard, les violences masculines contre les femmes et les féministes.
Parfait. Donc, on va parler de ça. Donc, des actualités, un retour sur ce colloque et tout plein d'excellentes musiques qu'Evelyne nous a promis de nous faire danser comme à notre habitude dans le studio. Et d'ailleurs, on va y aller tout de suite avec une première chanson, Evelyne.
Oui, j'ai retrouvé une vieille pièce de Crass qu'on a déjà utilisée d'ailleurs comme thème de l'émission Le premier été.
Le premier été, oui.
Alors, on écoute ça tout de suite, c'est Bata Motel.
Little girls of about 6 or 7 were asked, what do they like to do? And then, sometime later, the same question was asked in a slightly different form. They were asked, what do little girls like to do?
But I believe the time.
Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3 en compagnie de l'équipe d'Ainsi Squat-elle. Et on commence avec des petites actualités en bref. D'abord, une nouvelle, je pense que c'est important de la souligner au niveau local. En fait, c'est en lien avec l'itinérance. Une dame de 46 ans qui a été trouvée morte samedi dans le secteur de Neuchâtel et elle était en fait dans un vieux chariot de bois sans couvercle où elle, en fait, on peut présumer que c'est là qu'elle passait ses nuits. Donc, c'était une personne itinérante, une sans-abri. Et selon Benoît Côté, qui est le directeur général du programme PECHE, donc du programme d'encadrement clinique et d'hébergement, ce décès-là, c'est la preuve qu'il faut en fait continuer à mettre de la pression pour qu'il y ait vraiment une vraie politique sur la question de l'itinérance qui soit adoptée par le gouvernement, parce que ça sert à rien d'ajouter seulement quelques refuges et d'y aller à la pièce, de patcher les parce que visiblement ça fonctionne pas. Juste un petit rappel pour les gens qui connaissent pas PECHE, en fait c'est un organisme qui aide les policiers de Québec en réponse à des appels au sujet des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, mais ils font pas seulement ça, ils sont entre autres derrière des projets de coopératives de solidarité où on va avoir des personnes justement avec des problèmes de santé mentale, donc les aider au niveau du logement. Entre autres, moi, la coopérative où est-ce que je vais habiter, la coop qui va être juste à côté, c'est de ce type de coop-là également. Début novembre, on se rappelle qu'il y a eu un rapport de la commission parlementaire sur la question de l'itinérance. Puis en fait, ce que Benoît Côté rappelait, c'est qu'à ce moment-là, le gouvernement Charest a refusé d'adopter une politique sur la question de l'itinérance. Ils ont seulement adopté un plan d'action qui va toucher différents ministères, que ce soit le ministère de la Santé, de l'Éducation, des Affaires municipales, de l'Emploi et de la solidarité sociale, de la Justice, etc. Donc vraiment, on voit donc un plan d'action qui a d'ailleurs pas encore été présenté, qui devrait être présenté d'ici Noël. Mais en tout cas, clairement, on voit que ça presse parce qu'il y a des personnes qui meurent dans l'isolement le plus total, dans la solitude la plus totale, puis c'est quelque chose qui est complètement inacceptable, peu importe où ça se passe, mais on doit refuser que ça se passe certainement à Québec. Donc, première nouvelle, je pensais que c'était quand même important de la souligner. Au niveau plus international maintenant, donc on sait qu'il se passe pas mal de choses ces temps-ci à Copenhague, mm-hmm. Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, et le Canada, on a brillé aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es au courant, Claire. Je vais peut-être te l'apprendre. Tu es au courant?
Donc, en effet.
Oui, on a reçu le fossile du jour, le Canada, décerné par le Réseau d'action climat international. Plus précisément, en fait, à notre cher ministre de l'Environnement, Jim Prentice, pour ses déclarations juste avant que la conférence ouvre, en fait, où il a dit que les cibles de réduction du Canada en matière de gaz à effet de serre, en fait, sont non négociables. Donc, ce qui a fait dire au Réseau d'action climat international, c'est quoi cette attitude, j'allais employer un gros mot, mais en fait, c'est quoi cette attitude non constructive? Tout le monde vient aux Nations unies pour essayer de mettre de l'avant des solutions, puis tout de suite, le Canada arrive avec cette position, ma foi, très typiquement conservatrice, on
ça
bougera pas.
Ça risque de faire avancer les choses.
Oui, voilà, on est tout raide, donc quand même, bon, c'est plate, mais je pense que c'est important de le souligner, il faut pas avoir peur de regarder nos bobos. Donc, en tout cas, le Canada, encore une fois, c'était pas très positif à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça a été souligné aussi à Ottawa, parce que ce matin, il y a des militants et militantes de Greenpeace qui ont réussi à contourner la Gendarmerie royale du Canada et qui ont mis sur le Parlement, trois grandes barrières de long, et où est-ce qu'il avait écrit, entre autres, l'inaction climatique coûte des vies, Greenpeace, etc. Donc, c'était assez comique de voir ce matin les journalistes, entre autres Raymond Giroux dans Le Soleil, qui posaient la question comment ça se fait qu'ils ont pu se rendre jusque sur le Parlement, mettre leur bannière sans que la GRC soit au courant.
Eh bien, à ce propos, on peut souligner que je pense que c'était la semaine dernière en France. Greenpeace a réussi, là aussi, à s'immiscer dans l'Assemblée nationale. Et c'était même questionnement, comment ils ont fait. Mais ceci dit, on en a relativement peu parlé dans les médias. Les débats où ils ont dû être virés assez rapidement et tout a continué comme d'habitude.
Mais ça me pousse justement, je trouve ça intéressant, mais ça me pousse encore à me poser la question quand même qu'on avait déjà eu à l'insouquetel sur ce type d'action-là qui est spectaculaire, qui fait parler, mais en même temps, on voit, oui, ça fait parler de la question de Copenhague, en même temps, les journalistes en parlaient déjà, puis vraiment, l'éditorial, pas l'éditorial, mais le billet ce matin de M. Giroux, c'était clairement sur la question de la sécurité et non pas de l'enjeu. Donc, en tout cas, On continue notre questionnement tout en saluant évidemment cette action quand même spectaculaire, mais qui demeure du spectacle, tant qu'à moi. Donc, on va continuer en musique, Evelyne, pour clore ce petit bloc d'actualité.
Oui, j'ai une toute petite pièce musicale du groupe Tsunami Bomb. Ça s'appelle « Four Robots and an Evil Scientist ».
Ainsi soit-elle, toujours avec vous, avec Claire et Hélène derrière le micro. Et toujours dans notre petit bloc d'actualité, j'ai une nouvelle assez triste, mais en même temps qui était assez prévisible. Vous vous souvenez qu'on vous a parlé du film, l'excellent film, je dois souligner, La domination masculine donc de Patrick Jean, qui parle, en fait, qui analyse la culture occidentale contemporaine sous l'angle des rapports sociaux de domination entre les hommes et les femmes. Donc, un film vraiment très intéressant, bien construit, où on voit de témoignages d'hommes qui veulent se faire rallonger le pénis, hein, qui expliquent en quoi ça leur permettrait de se sentir mieux dans leur peau. C'est vraiment une question de pouvoir à l'éducation des enfants, à la violence conjugale, à la question des masculinistes, bien entendu, au Québec. Un passage aussi sur Polytechnique assez émouvant. Et évidemment, ce film-là fait beaucoup jaser, à un tel point qu'il y a entre autres Éric Zemmour, qui est, pour ceux qui le connaissent, un intellectuel. Je peux pas croire que je viens de dire intellectuel. Enfin, il se définit comme Éric Zemmour, qui se présente comme un intellectuel de droite, qui sévit particulièrement sur TV5 dans de multiples émissions. Et on le voit dans La domination masculine, entre autres, où il parle. En fait, lui, il a publié un livre qui s'appelle Le premier sexe. Hein? En fait, c'est pas vrai. C'est pas lui qui l'a publié, mais il commentait ce livre-là. Voilà. Et, parce qu'il parlait justement que les femmes castent les hommes, etc., pouvaient devenir le genre de discours. Et il vient d'envoyer à la société Elsevier Film une sommation de huissiers exigeant la cessation d'exploitation immédiate du film. Donc, carrément des menaces. Il considère que ses propos ont été déformés, donc il veut que le film soit censuré parce qu'en fait, c'est ce qu'on retrouve sur le blog de Patrick Jean, dont je donne l'adresse dans quelques secondes. C'est que lui, ce qu'il explique, c'est que dans le fond, le problème pour Zemmour, c'est qu'il ne partage pas le point de vue qui est défendu par le film, parce que dans le fond, les extraits où on le voit, c'est des prises de position publiques, c'est des entrevues qu'il a données publiquement à la télévision, à la radio, qui sont en parfaite cohérence, dans le fond, avec ses propos. Mais bon, évidemment, peut-être que dans le contexte d'un film pro-féministe, il a trouvé qu'il avait l'air d'un con.
Donc, et en effet.
C'est le cas, on peut vous le confirmer. Donc, les spectateurs, c'est ce qui est écrit sur le blog de Patrick Jean. En fait, c'est http://patrickjean.blogspot.com. Ou si vous tapez aussi la domination masculine dans Google, vous allez tomber tout de suite sur le site du film. Et ce qu'il dit, dans le fond, c'est qu'il invite les spectateurs, les spectatrices à aller voir le film et à juger d'eux-mêmes, dans le fond, si le film vaut la peine d'être vu. Mais évidemment, il dit qu'il n'est pas question pour lui de reculer. Donc, une nouvelle, en bref, qui circulait, en fait, aujourd'hui sur Internet, qui était, en fait, sur le fil de nouvelles des rebelles féministes de Montréal. Et petite dernière nouvelle pour terminer. Bien, il y a notre chère mère Nabon, Labeaume, Régis Labeaume, qui fait volte-face par rapport à la question des consultations publiques sur l'avenir du Patro. Donc, c'est un communiqué de presse qui est sorti par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Je trouvais ça intéressant vraiment d'en parler en rafale. Il y a un mois à peine, on se souvient, c'était les élections municipales. Donc, Régis Labeaume et certaines personnes de son équipe avaient dit « On veut du logement au centre-ville, donc pas d'hôtel. Le Patro... » Puis, en fait, je m'en souviens, pour les gens qui militent autour de la question du Patro, tout le monde n'en revenait pas. Mon doux, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était des promesses électorales. Parce que, justement, la ville vient de faire volte-face pour dire non, finalement, il va avoir un hôtel. Donc, ce qui a amené Mathieu Hulle-Courcelle du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste à dénoncer ça, hein, à dire, après avoir multiplié les déclarations choc, se rangeant derrière le scénario de l'expropriation pour faire place à l'habitation, voilà que les élus appuient le projet d'hôtel du promoteur Jacques Robitaille. Donc, évidemment, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste dénonce fortement le fait que Labeaume ait fait volte-face. Puis, en plus, en ce moment, là, ce qu'il dit, c'est que non seulement ils vont appuyer le projet du patron, mais en plus, plus question de consultation publique. Hein, on connaît d'ailleurs la position de Labeaume sur les consultations publique, ça sert à rien. Il veut pas savoir ce que le monde pense. En plus, il vient d'avoir un chèque en blanc à cause des dernières élections. Alors, voilà, dossier à suivre très certainement. Donc, ça fait le tour de nos actualités. Je parlais pas mal vite, mais je suis sûre que tout le monde a suivi. De toute façon, pour le Patro, je doute pas que nos camarades de Voix de Fait vont en reparler cette semaine. Donc, Evelyne, toujours en musique?
Oui, en musique. Deux très courtes pièces. La première, c'est du groupe canadien Kamalas, que j'ai eu la chance d'entendre à l'agité. La pièce s'appelle Antidote et ce sera suivi par une pièce qui s'appelle Bad Luck du groupe Civette.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA FM 88,3 et maintenant on passe au bloc reportage à Montréal par Claire sur la question de la Polytechnique.
Du week-end dernier. Alors, en effet, il y a une série d'événements commémoratifs pour se rappeler la tuerie de l'école polytechnique, puisque le 6 décembre 1989, un homme assassine 14 femmes parce qu'elles étaient des femmes. Il déclare vouloir envoyer ad patres les féministes, car elles lui auraient toujours gâché la vie. Et le point d'orgue de ces nombreux événements, manifestations qu'il y a eu le week-end dernier, où on était avec Hélène, ça a été ce colloque international de 3 jours à l'UQAM, organisé sur l'initiative de Mélissa Blais, une doctorante en sociologie, qui a réellement été un succès à plusieurs points de vue, mais entre autres par rapport au nombre de personnes qui ont répondu à cet appel-là. On était apparemment plus de 500 personnes inscrites pour le colloque vendredi, samedi, dimanche, à tel point que les organisateurs ont dû faire des changements de salle pour qu'on puisse entrer et participer aux réflexions là-dessus. Donc on y était et on a eu envie finalement de vous relater ce qui nous a le plus marqué, le plus questionné, le plus fait avancer dans nos propres réflexions féministes pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y aller. Alors, une des choses super intéressantes, c'est que cette commémoration était composée de plusieurs types d'événements. Alors, évidemment, il y avait des exposés, présentations universitaires, des débats académiques, mais ça, c'était mixé avec des présentations d'intervenantes, de groupes communautaires, de syndicalistes, de militantes, bref, de féministes de terrain. Et c'est assez rare, finalement, de pouvoir réunir ces différents types d'intervenants sociaux.
Surtout au sein d'un colloque. Puis je pense que c'est ça qui était intéressant. Elle disait, c'est à la fois du milieu universitaire, communautaire, artistique aussi, sûrement. Je ne veux pas te voler tes poches, mais en tout cas, voilà.
Tout à fait, c'est là-dessus que j'allais enchaîner. C'est qu'en plus de ces échanges-là, il y avait une exposition de Guerilla Girls à l'UQAM, qu'on fait une affiche exprès pour l'événement. Il y avait le lancement du livre de Mélissa Blais, « Jaillit les féministes », dont Hélène, tu vas nous reparler un peu plus tard. Une manif le dimanche, et puis aussi un concert pour finir. Là, je doute qu'on ait été beaucoup à s'y rendre, parce qu'au bout de 3 jours, ça fait quand même...
Avec Paul Pelletier, entre autres.
C'est assez intense, en effet. Mais c'était prévu justement pour, après avoir été dehors, il faisait assez froid, avoir beaucoup réfléchi, un moment de recueillement pour ne pas oublier ce qui s'est passé et puis voir quelle résonance ça a dans notre société aujourd'hui, où on en est. Alors, avant de revenir sur tout ça, j'avais très envie finalement de vous lire un petit passage de la présentation du colloque qui posait bien les enjeux, à mon avis, de revenir là-dessus, puisque vous savez que beaucoup de personnes ont insisté sur le fait que les féministes réapproprieraient les événements qu'on en a...
Récupéraient même en fait, c'était l'accusation, oui.
On en parle tous les ans, etc. Alors, pourquoi revenir là-dessus ? Je me permets de vous lire un extrait de leur présentation. Suite au choc social collectif que provoque cette attaque antiféministe, des débats s'engagent quant au sens à lui donner. Différentes interprétations ont été formulées, allant de celles qui culpabilisent les féministes à celles qui attribuent la responsabilité à la folie du tueur ou à son enfance difficile. Les analyses féministes ont pour leur part insisté sur l'importance de replacer ce drame et les débats qui y font suite dans l'histoire des rapports sociaux de sexe, en particulier de la violence contre les femmes et de la résistance face aux féministes. Donc, dans le cadre des commémorations entourant le 20e anniversaire de ce meurtre collectif, le colloque était organisé pour que participent, comme on l'a dit, différents acteurs universitaires, militantes, etc., pour évaluer ensemble la signification qui a été attribuée à ce drame au Québec et ailleurs dans le monde. Il y avait aussi des personnes, c'était intéressant, moi-même je ne savais pas, entre autres, comment elle s'appelle, Monreno, j'ai oublié son prénom, qui a monté en France les chiennes de garde, qui a dirigé un autre collectif qui s'appelle La Meute, et qui disait organiser tous les ans un rassemblement Place du Québec à Paris pour justement...
Sur la question du...
Sur la question des luttes féministes et de l'antiféministe et différentes formes qu'il peut prendre aujourd'hui. Donc, événement international qui était fort intéressant. Avant de revenir sur les points qui m'ont le plus plu, je vous propose de passer en musique avec Evelyne.
Oui, en fait, je vous ai préparé une petite pièce plus tranquille pour reposer vos oreilles. Une pièce d'une poétesse que j'aime beaucoup et que je fais jouer quand même assez souvent et que d'autres apprécient aussi, c'est Agnès Bille. Et c'est une pièce sur l'inceste, alors c'est quand même un sujet assez sérieux. Ça s'appelle « Touche pas à mon corps ».
Fais pas ça, je serai sage comme une image. Alors pourquoi t'es pas gentil? C'est pas juste et moi, j'ai pas l'âge. Ça va me faire mal à la vie. C'est pas de ma faute à moi si je veux pas faire ça. Et toi, tu sais pourquoi ça se fait? Que le silence, ça fait du bruit. Tu m'as dit que c'est un secret, et moi j'ai fait pipi au lit. Papa, c'est toi qui es le plus fort. Touche pas à mon corps. Papa, c'est toi qui es le plus fort. S'il te plaît, moi ça me crie dedans ma tête. Me fais pas ça, me fais le pas. Quand tu viens me voir en cachette, touche pas là, que je comprends pas. C'est pas de ma faute à moi si je peux pas faire ça. Moi je voudrais bien me punir, mais quand tu viens puis que tu restes, ça fait trop mal et c'est trop pire. Je t'aime et puis je me déteste. C'est vrai, tu sais, je t'aime. Alors touche pas à mon corps. C'est vrai, tu sais, je t'aime. Alors fais pas ça. Fais pas ça. Pas les yeux là où ça fait mal, et les mains là où ça fait peur. Moi je sais pas si c'est normal quand c'est tout sale à l'intérieur. C'est pas de ma faute à moi si tu veux me faire ça. Mais quand tu regardes tout partout, c'est pas du jeu. T'as pas le droit. Je sais bien que c'est pas des vrais bisous. Et puis d'abord, c'est pas ta toi. Même que c'est vrai, même que d'abord, touche pas à mon corps. Même que c'est vrai, même que d'abord, s'il te plaît, ne fais pas ça, papa, t'arrête. Fais-le pas, moi je t'aime que toi. Alors je le dis dans ma tête, ne reviens plus, mais t'en vas pas. C'est pas de ma faute à moi si je veux pas faire ça. Et toi, tu sais pourquoi ça se fait? Pourquoi personne il peut le voir? Tu m'as dit que c'est un secret. Pourquoi personne il veut savoir? Papa, c'est toi qui est le plus fort. Touche pas à mon corps. D'accord.
Vous êtes de retour à Ainsi Squat-t-elle.
Yeah, yeah, yeah.
Et nous, on a la petite lumière qui s'allume. Petite lumière pour vous présenter les deux points super important que j'ai retenu, moi, de ces trois journées d'échange. Le premier, c'est, je le dois à la présentation de Micheline Dumont, qui est l'historienne du féminisme au Québec, qui a fait une intervention le premier matin. C'était vraiment extrêmement émouvant. Et elle nous a présenté 100 ans d'antiféminisme. Et bon, comme un peu à chaque fois, c'est la même mécanique sociale qui se passe. Dès lors qu'il y a des mouvements progressistes, des luttes qui commencent à gagner un petit peu de terrain, il y a une réaction qui ne se fait pas attendre et des ressacs, etc. Et elle suivait à travers l'histoire du Québec, puisque c'est sa spécialité, les différentes étapes de cet antiféminisme. Et c'était vraiment hallucinant, parce qu'on oublie vite aussi. On préfère parfois, évidemment, se rappeler des gains qui ont été obtenus. Et donc, elle insistait pour dire que, voilà, dès lors que le féminisme émerge, on voit des formes diverses d'antiféminisme qui en sont les corollaires. Mais Ce faisant, rappeler cela, ça lui permettait aussi d'insister sur le caractère particulièrement virulent de l'antiféminisme actuel, donc le masculinisme dont Evelyne nous avait parlé à Ainsi Squat-elle il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, et qui s'organise, qui intervient, donc le masculinisme aujourd'hui, sur des thèmes choisis, rodés, qui affine sa théorie, qui est capable d'adapter ses arguments en rapport avec l'évolution de l'opinion publique et qui investit avec force les médias.
Et les sites internet aussi.
Et en particulier les sites internet. Ce qui faisait dire à Francis depuis Derry qu'à chaque fois, les forces donc, réactionnaires s'élèvent et il suffit qu'une seule femme, par exemple, perce dans l'état-major militaire pour que tous les militaires crient au scandale de la féminisation de leur métier.
C'est ça qu'il disait dans la conférence. C'est bon, il disait « une, c'est une de trop ».
Une, c'est une de trop. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'on est forte. Une, ça suffit à effacer tous les gars qu'il y a autour.
Il a souligné d'ailleurs que dans la lettre de Lépine, on n'en parle pas toujours. On parle surtout, bon, de la liste des femmes, entre autres Francine Pelletier, qui était sur sa liste de femmes à abattre, mais il y avait des premières aussi, la première pompière, la première policière, etc.
C'est toujours les premières qui suscitent de vives réactions. Ouais. Et l'autre point que moi, je ramène avec moi, et qui était particulièrement bien développé dans une multitude de conférences, c'était d'insister, et je crois qu'on en a encore besoin aujourd'hui, sur le caractère systématique de la violence masculine faite aux femmes. Et Martin Dufresne dresse une liste qui recense les femmes mortes au Québec par la violence des hommes depuis le 6 décembre 89 pour montrer qu'il y a des raisons d'en parler encore, qu'il y a des raisons de lutter encore contre ça. Et il y a 720 femmes qui sont mortes au Québec de violence masculine. Alors, j'aimerais revenir pour préciser pourquoi on emploie ces termes-là, pourquoi violence masculine faite aux femmes, pourquoi violence conjugale s'apprête parfois à confusion. C'est que la violence conjugale relève, donc là j'entends la violence masculine faite aux femmes, relève d'une logique structurelle et pas d'une logique individuelle, comme voudrait nous le faire croire un cadre théorique plus libéral. Les individus, ça c'est vraiment l'idée de base, n'entrent pas en relation les uns avec les autres dans un champ social neutre où chacun serait égal, autonome, en pleine possession de ses moyens, respecté, reconnu, valorisé de la même manière et où chacun occuperait des positions sociales similaires. Si c'était le cas, alors en effet, les violences conjugales subies par certains et certaines, et là on n'aurait pas de raison de dire plus certaines que certains, seraient bien le résultat d'une malchance ayant jeté dans les bras l'un de l'autre deux individus qui n'étaient pas faits pour vivre ensemble et puis qui donc en arrivent à un cycle de violence en vertu de leur singularité ou de traits qui leur seraient propres.
Ou de leur enfance malheureuse.
Entre autres. Les violences conjugales exercées par les femmes envers les hommes, du coup, devraient, dans ce cadre théorique, être connues, en effet, au même titre que les violences conjugales exercées par les hommes sur les femmes. La violence est déplorable dans tous les cas, bon, on est d'accord là-dessus, ça marche. Mais la malchance dont je vous parlais possède quand même une régularité qui devrait suffire à mettre la puce à l'oreille et montrer que cette analyse libérale ne tient pas la route. Elle devrait montrer ça même aux plus récalcitrants. Et bien pourtant, ça n'a pas suffi à la ministre qui était présente à la cérémonie de fermeture, madame je ne sais plus trop quoi.
Christine Saint-Pierre.
Et qui du coup, elle doit continuer de se demander pourquoi elle est ministre. Alors elle est ministre de plein de choses. Il y a communication, culture et conditions féminines au Québec. Je crois qu'elle n'a pas compris pourquoi elle est ministre de la condition féminine au Québec, parce qu'elle nous a tenu exactement ce discours libéral, bon, en même temps, c'est, c'est son parti. Mais c'était hallucinant qu'elle ose tenir ce discours-là dans une cérémonie de clôture d'un colloque où on avait justement dépisté ses biais théoriques. Elle arrive naïvement pour dire ça. Alors, quelqu'un se proposait de lui donner son numéro de téléphone pour qu'elle l'appelle et qu'elle ait un débat et qu'elle lui explique. Et bah, c'est ce que je me propose de faire aussi, au cas où elle nous écouterait, ce dont je doute, c'est que la violence masculine faite aux femmes relève d'une logique structurelle. Je dirais que c'est le point de base d'une perspective féministe, parce que, justement, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des individus abstraits qui rentrent en relation les uns avec les autres, mais ce sont des sujets sociaux qui, en fonction des rôles que la société attend d'elle et d'eux, ne sont pas éduqués à l'autonomie de la même manière, ne sont pas reconnus de la même manière, ne sont pas valorisés de la même manière. Bref, ce ne sont pas des égaux. Les femmes et les hommes ne vivent pas dans des conditions d'existence matérielle identiques, ce qui fait que ça ne les place pas sur un pied d'égalité pour entrer en relation. La hiérarchie, du coup, entre les classes de sexe hommes et femmes est structurelle et dépend de la perpétuation de ces des privilèges masculins. C'est ça qu'on appelle le patriarcat, et c'est pour ça qu'il y a un ministère qui s'appelle ministère de la condition féminine au Québec.
Alors, tu sais que Christine Saint-Pierre, c'est elle, entre autres, qui avait fait le topo sur 1989, sur le 6 décembre. S'il y a des gens qui sont intéressés à voir à quoi ressemblait en 89 et voir la teneur de son discours, tu sais, qui avait fait le topo à Radio-Canada, c'est dans les archives. C'est assez comique de voir ça.
Ah oui, c'est assez comique. Et c'est même...
c'est tragicomique.
C'est dramatique. Là, et je pense que c'était en plus de la naïveté de sa part, parce qu'elle n'avait même pas un petit côté ironique, subversif. Ce n'était pas de la provocation de sa part. Elle arrivait vraiment les bras ballants.
Elle doit se dire que vu qu'elle est ministre, le féminisme a plus sa lieu d'être, étant donné qu'elle est dans un poste de pouvoir maintenant.
Qu'elle refuse ce poste-là, je ne sais pas. Enfin bref, donc c'est pour ça qu'elle est ministre de la condition féminine au Québec. Et j'en profite pour rappeler que Jean-Marie Demange, un député UMP en France, s'est suicidé en novembre 2008. Avant de se suicider, il a tué sa compagne, alors qu'il était marié, qui avait décidé de le quitter, de 2 balles dans la tête, et puis il s'est tué juste ensuite. L'Assemblée nationale a observé 1 minute de silence.
Pour lui.
Pour lui. C'est quand même... il me semble énorme. Alors après, il y a eu des sorties, blablabla, certains ont regretté, mais puis on a expliqué ça, comme d'habitude, par des phénomènes de psychologisation, parce que le pauvre petit gars, il avait perdu la mairie de Thionville, donc il était déprimé.
Il souffrait, donc il a tué sa femme.
Il souffrait.
Son ex-femme.
C'était même pas sa femme, c'était sa compagne, parce que par ailleurs, comme je dis, il était marié, son amante, qui avait décidé de passer à autre chose. Bon, c'était un petit coup de gueule par rapport à 2 catégories qu'on ne doit pas confondre, à mon avis, et qui étaient vraiment très bien explicitées lors de ce colloque. Voilà. Bon, on passe en musique.
Oui, en fait, j'ai préparé une pièce de la chanteuse du Québec, Annick. C'est une pièce qui se retrouve, j'ai pas le titre de la pièce parce que c'est une pièce cachée qui se retrouve sur son album Cataract, et ça traite de violence conjugale. We'll be right back.
Vous êtes avec l'équipe d'Un Cisquatel et on revient en ce moment sur les événements commémoratifs de la tuerie de Montréal, de Polytechnique qui a eu à Montréal le week-end dernier. Alors, je vous ai parlé de deux points qui m'avaient vraiment touchée puis que je trouvais important à retenir de ces trois journées. Et puis, pour finir, il y a une autre intervention qui m'a particulièrement marquée, qui était celle d'une psychologue italienne, Patricia Romito, qui parlait de stratégie d'occultation. Et puis tout à l'heure, en discutant avec Hélène, on se disait que, habitant au Québec, allant à Montréal souvent pour des manifs ou des trucs comme ça, on en profite aussi, on essaie en tout cas pour retrouver des amis qui habitent à Montréal et qui ne sont pas nécessairement dans ce milieu-là. Et la rupture est d'autant plus brutale que quand on sort de ce genre de rassemblement qui motive, qui fait du bien vraiment, de se retrouver dans des milieux, si ce n'est anti-féministe, en tout cas totalement indifférent à la question et qui sourit indolemment sur le fait qu'on va aller avoir froid le lendemain pour une manif, c'est particulièrement embêtant.
En tout cas, pour ma part, le choc a été assez violent, passer de la journée au complet au colloque à un autre milieu complètement où c'était quasiment risible d'y être allé. C'était pas facile.
C'est pas facile tous les jours. Et du coup, Patricia, elle identifiait différentes stratégies d'occultation, comme elle nous met ça, et il y en avait une qui relevait du refus de la part des femmes à reconnaître le patriarcat. Donc, pour resituer ces différentes... En fait, elle reprenait des témoignages de femmes et d'enfants victimes donc de violences masculines à leur égard. Et elle expliquait les glissements qu'il y avait dans les cadres théoriques qui permettaient de recenser ces différents témoignages pour ensuite en faire des statistiques et éventuellement mettre en place des politiques publiques. Et elle disait que même des femmes qui arrivaient avec, qui avaient des faits à décrire qui étaient comme l'évidence, refusait, maintenait un refus, donc reniait d'expliquer les choses en termes de violence de la part de leur conjoint. Et son explication était relativement simple, mais elle disait c'est horrible à voir. On n'a pas envie de le voir, c'est horrible à voir parce que ça suppose du coup de relire des histoires d'amour en histoires de domination. Évidemment, ça fait pas plaisir, ni pour les autres non plus. Puis ça me permet de faire un lien avec ce que je racontais tout à l'heure de cette logique structurelle du patriarcat. Et c'est difficile, disait-elle, de reconnaître les différences de possibilités accordées aux hommes et aux femmes, parce que ça oblige du coup à voir que pour que cette différence persiste, donc pour que le patriarcat persiste, il y a une violence de la part des hommes qui doit être exercée continuellement pour qu'ils maintiennent en place leur système de privilèges. D'où le fait de relire des histoires d'amour en histoires de domination. Et donc ça, c'était un mécanisme d'occultation inconscient qu'elle relevait et qui biaisait l'ensemble des statistiques bien souvent, sauf à avoir un cas d'analyse explicitement féministe, ce qui n'était pas très, très partagé par ses collègues, apparemment. Il y avait deux, trois autres stratégies dont j'ai envie de vous parler rapidement. C'était que les femmes ont du coup du mal à en parler, mais quand elles se mettent à en parler, c'est comme si elles parlaient trop. Du coup, c'est extrêmement confus parce qu'il y a plein d'axes de domination à prendre en compte et c'est assez facile de retenir, par exemple, la domination entre les races plutôt que la domination entre les sexes ou dépendamment des intervenants et de ce à quoi ils sont sensibles, ils vont difficilement retenir l'ensemble des problèmes parce que les femmes sont soumises à trop de problèmes. Donc c'était le fait de trop parler et de produire de la confusion dans la réception des données. Et puis il y avait un nouveau paradigme qui s'était mis en place selon elle qui consistait à refuser de croire ce que les témoins ce dont les témoins témoignaient. Mm-hmm. Et on avait commencé à parler en Italie de fausses mémoires, de fausses accusations. Il parlait même du syndrome de l'aliénation parentale pour les enfants qui témoignaient d'abus sexuels de la part de leur père à leur endroit, comme s'il y avait aussi des entités vraiment plus importantes à maintenir en place, comme la famille. Donc, un ensemble de pratiques qui permettent de faire taire, finalement, les enfants et les mères. Et
donc, puis, ce syndrome, ça serait de dire quoi, si tu l'expliques juste? C'est de dire que, dans le fond, l'enfant ment, ou...
De dire, voilà, alors, les femmes, sans doute qu'elles ont trop de la rancune, ou elles veulent se venger, c'est une manière de faire.
Donc, se servent de l'enfant.
Même si on ne remet pas en cause leur bonne volonté, c'est sans doute inconscient, mais on ne prend pas pour vrai, pour véridique, ce qu'elles disent. Okay, et puis, quant aux enfants, ils seraient trop petits, de toute façon, pour mettre les bons mots dessus, donc sans doute qu'ils parlent d'autre chose. C'était assez effrayant.
C'est assez inquiétant, oui.
Ouais, vraiment. Et puis, la dernière chose, et qui relève, là encore, d'un ressac profond, c'était l'attaque des chercheurs, en tout cas, ce n'est pas l'attaque armée, on s'entend, mais l'attaque de leurs données, les résultats de leurs recherches, où on voyait de plus en plus le fait que des étiquettes de violence étaient refusées à des faits. On disait, ouais, vous dites que c'est de la violence, mais c'est quand même pas vraiment de la violence, genre, faut pas bouger le bouchon trop loin. Les données était jugée fausse, on refaisait des données, or on sait à quel point les chiffres, on peut les faire parler dans un sens dans l'autre. Et puis, la dernière stratégie d'occultation, c'était évidemment de faire passer pour des traits psychologiques ce qui relève d'une injustice sociale. En tout cas, elle exprimait une vraie inquiétude quant au domaine de la psychologie, qui, ceci dit, n'a jamais été un grand partenaire pour les féministes, mais elle voyait vraiment des glissements qui se passaient aujourd'hui dans la profession des psychologues.
C'est glissement qu'on voit d'ailleurs, comme tu disais, c'est de la violence, mais c'est pas vraiment de la violence. C'est la même chose qu'on voit au niveau sexuel. Hein. C'est pas une agression sexuelle, c'est pas un viol parce que ça prend pénétration, donc c'était des attouchements ou des attouchements profonds. On voit vraiment comme s'il y avait une gradation. Puis j'en parlais avec une copine dernièrement, puis on se disait, mais tu sais, il n'y a pas de petits ou de grands viols. Il y a des viols, tu sais, il y a abus sexuel, qu'il y ait pénétration ou pas d'ailleurs, de toute façon, exiger qu'il y ait pénétration pour reconnaître que c'est un viol, on voit tout de suite à quoi on réfère, au modèle hétérosexiste, bien clairement. Mais c'est ça, c'est comme on dirait que ça m'est resté dans la tête qu'on se disait, c'est la même chose pour la vie. Tu sais, c'est ça, il n'y a pas de petit ou grand viol. Il y a un viol, t'abuses d'une personne au niveau sexuel, dans le fond, sans son consentement, point final. Mais on voit vraiment ce glissement-là beaucoup aussi en psychologie, puis dans les médias aussi, hein, attouchement sexuel ou juste oral, ou etc. En tout cas, c'est à réfléchir. Ouais.
Tout à fait, à réfléchir. Puis c'est ce continuum, on peut l'identifier comme non-violent, c'est précisément parce qu'on gomme l'aspect relation de pouvoir, l'aspect patriarcal, qui a une domination instituée, qui fait que le consentement, c'est quelque chose de difficile.
Ouais.
Ben, ça me fait penser justement à ma pièce musicale qui s'appelle Never Her Fault. C'est d'un groupe de l'Ontario, un groupe punk rock qui s'appelle Class War Kid. Alors, ça risque d'être la dernière pièce musicale avant la conclusion, c'est que vous allez avoir la chance de conclure dans un petit instant.
And I don't care who's walking alone. Is this his fault? don't blame her. We are tired of violence, we're fueled by our rage. We are bringing our silence, no longer afraid. When we learn about culture that places the blame of violence, surges the power of survivors and rage. We will not sit here, I will not be pacified. We will take a stand with her and fight by her side. We're a beautiful fury and our voices to let. We will ensure that no one here be silenced again. She has every right to be heard and angry. It's not her fault, it's never her fault. She will break the silence with her fury. It's not her fault, it's never her fault. She didn't deserve this, no one fucking deserves this. It's not her fault, it's never her fault. She is beautiful, she is strong, she is brilliant. It's not her fault that he fucking did this. And I don't care if she went back to his place. And I don't care how many days it took. And I don't care if he didn't hear her say no. This is his fault, don't blame her. The fire inside her will burn her despair. We will rise up united and smoke out the air. We will not push her or blame her, her spirit or strength. We will help her destroy her, what's the point of a fight? And in the ashes and rocks, she's a picture as fall. We'll rejoice in the rubble as tears start to fall. We will yell by the streets and the joy on her face. And we finally burned out what they strive to create. She has every right to be heard and angry. It's not her fault, it's never her fault. She will bring the silence with her fury. It's not her fault, it's never her fault. She didn't deserve this, no one fucking deserves this. It's not her fault, it's never her fault. She is beautiful, she is strong, she is brilliant. And it's not her fault that he fucking did this.
One in every three women will be subject to sexual assault at least once in their lifetime. Of the staggering number of assaults, only 6% will go on to be reported.
Tonight we break the silence!
No! Not now!
Don't touch me!
There's
run! See you later!
My
style! Stop! Not ready! Fuck you! You say! I don't want you! Feel right! I'm a girlfriend! Get lost! Silence! Get off me! I'm a carrier! Go away! You're not comfortable!
Sur les ondes de CKIA FM, vous écoutez Ainsi Squattel et ça casse. C'est déjà la fin, juste quelques minutes quand même pour vous parler des événements à caractère plus social ou politique qui a eu lieu aussi autour du colloque dont on parlait. D'abord, le lancement du livre de Mélissa Blais dont tu parlais tout à l'heure, Claire, donc « J'haïs les féministes » le 6 décembre 1989 et ses suites. Donc, ça c'était le samedi, il y a eu le lancement à la mer à boire. Et évidemment, j'ai pas encore eu le temps de lire le livre, mais entre autres, il y a une communication qu'elle a présentée sur la question de la négociation de la représentation de Polytechnique dans le film Polytechnique qui est sorti dernièrement, qui était vraiment très communication très intéressante, qui est entre autres dans le livre. Et en fait, l'objectif de Mélissa Blais, donc, vous voyez, c'est le résumé du livre commence avec « J'haïs les féministes », c'est la déclaration de Marc Lépine au moment d'ouvrir le feu sur les étudiantes de l'école Polytechnique. Donc, ce qu'elle dit, c'est que son ouvrage s'inscrit à même le travail de mémoire à travers une étude minutieuse des médias, entre autres La Presse, Le Devoir, The Globe and Mail, dans le fond de retracer l'évolution des réactions par rapport à Polytechnique, dont ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, les discours donc féministes qui vont proposer une analyse plus sociale et politique de la chose. On dit bon, à contrario, les gens qui vont dire bon, les féministes récupèrent, en fait c'est parce que Mac Lépine a eu une enfance malheureuse, il y en a même qui disent parce qu'il était arabe. Parce que bon,
il n'a pas été pris à Polytechnique.
Ouais, voilà, etc. Donc, c'est de retracer ces discours-là. Puis évidemment, on peut définir que Mélissa Blais a un parti pris clair qu'on apprécie beaucoup ici, évidemment, à l'émission sur l'analyse plus politique. Donc, il y a eu cet événement-là. C'est sûr qu'on va vous reparler du livre une fois qu'on l'aura lu. Et il y a aussi eu la manifestation sur laquelle je veux dire quand même deux mots. Donc, le grand rassemblement qui a eu lieu le dimanche à 2h au parc Émile Gamelin. C'est vraiment bien. Tout le monde avait bon le ruban blanc, donc, pour signer. La position, je pense, l'analyse politique de la chose, le souvenir de la tuerie de Polytechnique. Il y avait en fait, je ne sais pas si tu vois l'image avec moi, Claire, le grand carré avec des rubans blancs immenses. Donc, il y a eu une chaîne humaine qui a été faite. Il y avait environ, je vous dirais, plus de 500 personnes, certainement.
Il y avait vraiment du monde, oui.
Oui, vraiment beaucoup de monde. Et ça mettait, en fait, ça, j'allais dire, ça clouait, mais en fait, ça terminait. C'était le clou des 12 journées d'action pour l'élimination de la violence violence envers les femmes qui avait été menée, entre autres, par la FFQ, mais aussi le comité de coordination où il y avait Amnesty International, entre autres. Je ne les nommerai pas tous et toutes, évidemment, mais bon, Stella, Lire des centres des femmes, les Calax, etc. Donc, 12 journées d'action donc qui se terminaient avec ce rassemblement-là où on a évidemment des personnes qui ont pris la parole. Moi, j'étais plus un peu dans la foule, puis il y a entre autres deux bannières dont je voulais absolument parler. Une qui était portée par des féministes lesbiennes. Donc, c'est vraiment une bannière multicolore, les lesbiennes contre la violence faite aux femmes, qui m'a vraiment frappé le regard. J'aurais bien voulu avoir un Kodak. Et une autre bannière aussi qui était portée à la fois par des femmes, des hommes et des enfants. Puis c'était en fait un immense patchwork. Donc, une bannière avec différents... vraiment cousue à la main avec différents symboles où il était encore écrit « Plus jamais », « Polytechnique », etc. Donc, moi, en tout cas, très émotive et très sensible à ces moments-là de solidarité où est-ce qu'on voit tout le monde en même temps. J'étais très... j'étais là, tout entière. Alors ça, c'était les deux mots pour la manifestation. Puis finalement, juste pour conclure, très important juste de vous rappeler, on va en reparler à l'émission, mais que la Coalition pour la défense du registre des armes à feu qui rappelait, pas plus tard que cette semaine, que si cette loi-là pour le registre a été créée le 8 décembre 1989, c'est pas le 8 décembre, mais suite au 6 décembre 1989, c'est pas le temps du tout de l'abolir. On revient là-dessus. Merci Claire pour ton topo. Merci Edwin pour la musique. C'était Ainsi squat-t-elle. Restez en onde. Je suis immédiatement, si vous nous écoutez en direct, cultivons notre hip-hop.